Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large sur Chantal Akerman, artiste et cinéaste, avec Claire Atherton, Corinne Rondeau et même Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Elle ne savait pas nouer ses lacets de chaussures et se moquait bien des frontières entre les pays comme entre les genres. Inventrice de formes séminales pour toute une génération de cinéastes internationaux, créatrice d'espaces où le spectateur joue un rôle unique dans le cinéma contemporain, Chantal Akerman a créé en 47 ans une œuvre polymorphe en perpétuelle recherche et renouvellement, charnelle et envoûtante, qui a débuté dans le burlesque explosif pour se conclure dans l'intimité d'une relation à la mer. Saute ma ville, hôtel Monterey, je tuile elle, Jeanne Dillman, 23 quai du commerce, 1080 Bruxelles, News from Home, les rendez-vous d'Anna, Golden 80s, un divan à New York, d'Est, Sud et de l'autre côté, La captive, Demain on déménage et La folie Almayer, et enfin, ce dernier film sorti après sa mort il y a 2 ans, No Home Movie. Des films que Chantal Akerman voulait drastiquement et en même temps, c'était à vous de voir, disait-elle, à nous de voir. Voir et revoir son œuvre, c'est ce qu'a fait une maître de conférences en esthétique et sciences de l'art, voix bien connue des auditeurs de France Culture depuis Tout arrive jusqu'à la dispute, Corinne Rondeau, qui vient de publier aux éditions de l'Éclat Passer la nuit, un essai inspiré et poétique sur Chantal Akerman, essai dédié à sa monteuse et collaboratrice artistique sur plus de 30 ans, Claire Atherton. Corinne Rondeau et Claire Atherton sont les invités de Plan Large aujourd'hui et on s'en réjouit parce que Chantal Akerman, pour l'avoir beaucoup rencontrée et interviewée, on l'aimait infiniment à France Culture. Elles sont accompagnées d'un fervent akermanien, Mathieu Macheret, qui nous dira aussi en fin d'émission pourquoi il faut de toute urgence aller voir et revoir en salle de cinéma Le Coureur d'Amir Naderi. En 1968, Chantal Akerman est entrée sans vergogne, comme elle le disait, en cinéma. C'était Saute ma ville, ce qu'on vient d'entendre. Premier pas de Chantal Akerman, une déflagration burlesque entre deux écrans noirs, écrivez-vous, Corinne Rondeau. Saute ma ville, écrivez-vous, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fout le bordel. Bonjour Corinne Rondeau.
Bonjour Antoine. Vous voulez que je développe sur le bordel, c'est ça?
Que vous développiez sur, voilà, cette entrée en cinéma sans vergogne de Chantal Akerman, Saute ma ville.
Ce qui est intéressant, c'est effectivement une petite forme qui déploie, je dirais, une manière à la fois intime, parce qu'on est à la maison, parce que c'est là aussi où elle vit à l'époque, et puis c'est son premier film. Donc oui, c'est quelqu'un qui va pouvoir, dès ce moment-là... Enfin, ce qui est intéressant de voir avec Saute ma ville, c'est quand même de le mettre en perspective avec tout le reste, parce que c'est à la fois un film burlesque, dont elle dira d'ailleurs que, bah, elle aurait bien voulu en refaire une forme, donc c'est un film auquel elle est très attachée et en même temps, bon, c'est un peu douloureux aussi à voir. Mais donc voilà, c'est vraiment un film qui effectivement remet en question pour moi toutes les dimensions d'identification de tous les personnages qui sont à la maison et qui ne sont pas là, les absences, le père, la mère. Mais c'est aussi une manière de rejouer ce rôle-là pour aussi tout foutre en l'air, puisqu'en fait, si le film finit sur une explosion, qu'on ne voit pas d'ailleurs, on l'entend sur un fond noir.
Donc il faut resituer, c'est une jeune fille qui, dans sa cuisine,
elle arrive,
va faire avec les instruments du quotidien toute une série de gestes assez burlesques, puis finit par ouvrir le gaz dans sa cuisine et se mettre la tête dans la cuisinière.
C'est le trajet d'une lettre. Hein, puisqu'il y a la boîte aux lettres avant d'en rentrer à la maison.
On en reparlera des lettres chez Chantal Akerman.
Il y a une ellipse, et effectivement, c'est comment on sort une lettre d'une enveloppe et comment, effectivement, cette lettre, on va l'accrocher, puis elle va finir brûlée en même temps qu'autre chose, quoi. Donc, c'est évidemment essayer de faire une table rase. Le début est une sorte de table rase dans laquelle, voilà, quelque chose. On fait sauter un petit peu tous les verrous. Enfin, ça, on peut dire ça comme ça en allant très vite. Mais je veux dire, il a quelque chose de très séminal en termes de. Qu'est-ce qui va venir aussi du cinéma d'Akerman, dont elle ne sait absolument pas d'ailleurs ce qui va venir après. Mais c'est le départ, c'est un film de départ en tout cas.
Clara Terton, quand le film a été édité par Shellac, je crois, dans un coffret DVD qui revenait sur son cinéma des années 70, qui a fait découvrir à nombre de spectateurs les premiers films de Chantal Akerman. Chantal Akerman, dans des bonus, racontait qu'elle trouvait le film assez vrai, assez biographique, mais qu'elle voulait... Elle aimait pas trop le revoir. Vous en avez parlé avec elle de ce film, Clara Terton ?
Directement de ce film, je pense pas. Je suis pas sûre que... Enfin, après, ce qui est important de savoir, j'ai l'impression, avec Chantal Akerman, par rapport à Chantal Akerman, ou plutôt concernant Chantal Akerman, c'est qu'elle pouvait dire une chose, mais ça veut pas dire que c'était tout le temps vrai. Donc je pense qu'elle a très bien pu dire qu'elle aimait pas voir ce film à un certain moment. Moi, elle ne me l'a jamais dit. Je sais que là où elle y était, la raison pour laquelle elle y était particulièrement attachée, en fait, c'est parce que c'est comme ça a été comme l'ouverture d'une brèche. Vous parliez, vous la citiez en disant sans vergogne. Je pense que c'est vraiment le sans vergogne qui est peut-être le plus important dans Sotnavine, c'est-à-dire d'avoir créé sans se poser de questions, fait un geste sans se demander quelles allaient en être les conséquences, comme un cri, mais pas un cri dramatique, pas au sens d'un cri de désespoir, mais un cri, quelque chose qui dérègle. Et à partir du moment où il y a dérèglement, il y a brèche, et à ce moment-là, on peut rentrer et on peut... Et l'œuvre peut se développer. Moi, j'ai l'impression que si elle a... peut-être qu'elle l'a même dit, j'en sais rien. Mais elle aurait pu dire que si elle n'avait pas fait Saut de ma ville, tout aurait été différent. J'aurais bien imaginé qu'elle aurait pu dire ça. Peut-être qu'elle l'a dit, peut-être qu'elle n'a pas dit, mais je crois que c'est vraiment l'ouverture de quelque chose. Et qu'à partir de là, elle a pu commencer. Et je dis ça parce que je pense que c'est toujours quelque chose qu'elle a recherché après. Cette façon d'aller dans la création de se plonger dans la création sans savoir exactement où est-ce qu'elle voulait arriver. C'était essentiel pour elle.
Mathieu Macheret ?
Oui, mais c'est un film, Saute ma ville, c'est vrai, c'est un point originaire, quoi. Et c'est un film à partir duquel on mesure la persistance, vraiment, des motifs dans le cinéma de Chantal Akerman. Un film d'une grande légèreté et d'une gravité définitive en même temps, et qui sera rejoué plus tard dans sa filmographie, d'une manière très troublante, dans un film qu'on cite assez peu souvent, mais qui est remarquable, qui s'appelle « Demain, on déménage », qui essaie de retrouver aussi cette tonalité burlesque, qui est aussi là, qui sera appliquée au langage, etc. Et où il y aura aussi une fuite de gaz, hein, qui, voilà, le film rejoue comme ça beaucoup de choses, comme quoi il y a vraiment une base continue, très solide, très tenue dans ce cinéma.
Je me suis écoutée respirer. J'ai joué avec ma respiration. Et puis j'ai oublié de continuer ce jeu. Et j'ai attendu. Je mangeais de temps en temps une grosse cuillerée de sucre en poudre. J'ai su qu'il y avait sans doute 28 jours que j'étais là.
Voilà, c'est un extrait de Je tuile, elle, Chantal Akerman, en 1974. On va raconter ce qui s'est passé un peu entre Sotmaville et ce film. Mais alors, il m'arrivait quelque chose de curieux en lisant un peu sur Chantal Akerman, y compris dans un ouvrage éminent, le dictionnaire Larousse du cinéma. Et j'ai trouvé un qualificatif sur le cinéma de Chantal Akerman qu'on retrouve ici et là, c'est narcissique. On entend ici la voix de, vous voyez, ça vous fait réagir. On entend la voix de Chantal Akerman ici. Or, si je regarde la couverture de votre livre, Corinne Rondeau, Chantal Akerman passait la nuit. Il y a une citation de Chantal Akerman qui dit :« Je ne crois pas qu'il faille chercher dans l'autobiographie, ça enferme. » Comment est-ce que le cinéma de Chantal Akerman peut passer pour narcissique ?
Par simplicité. À partir du moment où quelque chose est très apparent, comme effectivement un rapport à un passé, à une histoire, où effectivement les motifs de la mère sont très présents, mais aussi de sa propre vie. Mais attention, c'est une vie de cinéma, ça n'a rien à voir avec une vie. Elle le dit dès 76 avec Les Rendez-vous d'Anna, elle dit, oui, ben voilà, la seule chose qui me lie à ce personnage, c'est le fait que je voyage.
Ouais, c'est un personnage de cinéaste, interprété par Aurore Clément, qui voyage en train et qui rencontre des gens.
Et la citation que vous venez de faire, c'est une citation de 2014, je crois, auprès de Nicole Brenez. Elle questionnait, puisque La Folie Almayer est dédiée à son père. Donc, c'était, Donc, évidemment que non. Je veux dire, donc, le problème du cinéma de Chantal Akerman, c'est qu'il est identifié, je dirais, principalement à cette dimension autobiographique, alors que le terme d'autofiction, enfin de fiction, serait plus intéressant. Son passage à Pompidou, il y avait marqué « autoportrait en cinéaste », donc ça dit tout à fait autre chose. Ça veut dire aussi que c'est la fiction qui est en jeu, et cette fiction, je veux dire, ce n'est pas parce qu'on peut se nourrir d'un élément de la réalité, du monde extérieur, puisque le monde extérieur, c'est déjà un obstacle qu'il faut franchir. Et puis, quand on fait du cinéma, l'un des enjeux, c'est quand même de raconter des histoires. Donc, si vous ne faites que de rapporter ce que vous vivez à la fiction, en général, ça n'a pas grand intérêt. Et après tout, on peut effectivement reprocher à plein d'autres artistes, d'ailleurs, y compris Chantal Akerman, la dimension narcissique. Mais c'est un mot qui est tellement galvaudé que, en général, moi, je dis le narcissisme, c'est vachement intéressant parce que c'est quand même une manière de rester en vie. Par ailleurs, dire à un artiste que c'est narcissique, c'est quand même, en général, un défaut. En tout cas, une estampille qui marque. Et moi, j'ai écrit aussi ce livre contre tout ça. C'est-à-dire cette manière d'enfermer, d'identifier Chantal Akerman à l'intérieur d'une structure assez fixe, puisqu'elle commence à la maison avec les ombres du père et de la mère, et puis tout ce qu'il peut y avoir après sur un rapport au passé. Mais avoir un rapport au passé, c'est pas forcément raconter sa vie. Ça peut être aussi une manière de faire récit. Donc, en soi, le terme de narcissisme ou narcissique est une forme un petit peu, un raccourci, on va dire, et même si on peut aussi le rapporter à l'immersion des miroirs qui sont extrêmement importants dans sa filmographie. Mais c'est un motif comme un autre, comme il y a des pommes, il y a des lettres, il y a des arbres. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants qui, effectivement, se déroulent tout au long de la filmographie. Et par lesquels il y a une continuité, il y a une cohérence, mais vous voyez, ce sont des choses concrètes. C'est pas autre chose. Et donc, ce qui est important sur la question du miroir, c'est de voir aussi comment elle les montre, et que ces miroirs, c'est pas pour s'y regarder dedans. Et le cinéma d'Akerman, c'est pas pour regarder Chantal Akerman avec sa vie à l'intérieur d'images, pas du tout ça. Je pense que c'est une des plus grandes cinéastes du XXe siècle, et peut-être même autre chose, parce qu'on peut appeler ça juste une artiste, à partir de laquelle, effectivement, elle nous donne une... Enfin, elle fait place pour qu'on... Son cinéma est une manière de nous offrir un espace et du temps. Voilà. Et si on veut y plaquer tout ce qu'on veut, le père, la mère, les enfants, la judéité, tout ce qu'on veut, bah évidemment, on n'a pas de chance pour rejoindre son œuvre. Ça, c'est sûr. En tout cas, pas faire... pas faire le pas vers elle comme elle a fait le pas vers elle-même quand elle a fait Saute ma ville. Donc le miroir, c'est pas du tout un narcissisme, c'est une manière aussi de renverser quelque chose de soi à l'intérieur de sa propre image. Et donc c'est aussi bien d'aller au cinéma pour découvrir qu'on est peut-être autre chose que de vouloir bouffer toujours la même chose, parce que le cinéma aujourd'hui, voilà, il est peut-être, de mon point de vue, il est un petit peu moins, je sais pas, on va dire truculent, enfin, moins divers et moins réjouissant que ce qu'on pouvait voir par le... Enfin, j'ai l'impression d'être une vieille déjà, mais ça peut venir comme ça.
Claire Atherton, dans ces années-là, donc les années où Chantal Akerman à New York va découvrir le cinéma underground, le cinéma des Stan Brakhage, de Michael Snow, on sait que la chambre avec ce panoramique à 360 degrés dans sa chambre est très inspirée de la région centrale de Michael Snow. Chantal Akerman commence à créer pas tant des dispositifs, mais que des formes, et notamment celle du plan frontal. Elle dira d'ailleurs encore une fois quand elle parlait de ses films qu'elle s'interrogeait beaucoup sur le deuxième commandement de Dieu, tu ne feras pas d'image, et donc elle avait décidé de faire des plans de face comme ça, des images frontales qui allaient durer assez longtemps.
Une fois de plus, je ne savais pas qu'elle avait dit ça.
Moi, je prends pour parole d'évangile tout ce que nous a raconté Chantal Akerman.
Mais vous avez bien raison. C'est juste que je ne savais pas qu'elle avait dit ça. Moi, j'ai jamais eu l'impression que c'était une décision si consciente, la frontalité.
On réfléchit a posteriori chez Chantal Akerman.
Oui, exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours vu dans cette nécessité de frontalité le besoin d'un espace. Et c'est comme si elle avait besoin, elle créait un espace dans lequel les choses pouvaient advenir. Et donc cette frontalité l'aidait à arriver à ça, enfin lui permettait d'arriver à ça, pas l'aider, j'aime pas trop ce mot aider. Je vais juste revenir deux minutes sur ce mot narcissique là. J'avoue que j'ai pas compulsé le dictionnaire Larousse.
Ah mais vous devriez, narcissique.
Je vais essayer.
Il est écrit.
J'avoue que je suis un petit peu, je suis très très surprise et. Bon, il faudrait peut-être que je cherche justement dans le dictionnaire Robert 1 ce que ça veut dire exactement, narcissique, parce que peut-être que je sais pas. Mais en tout cas, c'est lié à ce que je disais, à ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'espace. Pour Chantal Akerman, c'est toujours très important que le spectateur, pardon, soit pas avalé par le film, soit pas pris, désincarné par le film, pris par le film, et qu'il continue à exister, qu'il continue à travailler, comme s'il devait, comme on réécrit en lisant, elle avait vraiment, pour elle, c'était très très important qu'on se mette en mouvement. Et du coup, je comprends pas le rapport avec le narcissique, pour moi, c'est totalement à l'opposé. Parce que justement, travailler ça et donner des pistes, ouvrir des brèches, faire une œuvre, construire une œuvre si vivante et qui continue à nous habiter une fois qu'on l'a découverte. Enfin, quand on sort d'un film de Chantal Akerman, en général, on continue à être habité par les images, par les associations, par les sons longtemps et ça nous ébranle. Je vois pas trop le rapport avec le narcissique.
Ces gestes, c'est évidemment des gestes que j'ai eu faire dans mon enfance autour de moi, que ce soit par ma mère ou par mes tantes. Ça, c'est évident. Maintenant, ce personnage-là, avec son obsession-là et son... C'est peut-être ce qu'il y a de caché derrière ces femmes-là, sans doute, que j'ai perçu. Par exemple, elle met les pommes de terre à cuire dans de l'eau. L'homme sonne, il rentre, elle prend son foulard ou son manteau, elle le pend. Elle disparaît dans une chambre, ferme la porte à clé, elle ressort de la chambre. L'homme paye, elle met l'argent dans une soupière, ferme la soupière et elle va éteindre le feu en dessous des pommes de terre parce que les pommes de terre sont cuites. Donc on sait que ça a duré 20 minutes. Et tout est organisé comme ça. Chaque geste, elle rentre dans une pièce, elle allume la lumière, elle ressort de la pièce, elle ferme la lumière, etc. On peut dire que on appellerait ça une obsessionnelle, mais c'est aussi une manière de remplir son temps de manière à ce qu'il n'y ait pas une minute de vide. Le vide qui c'est le vide, le gouffre, quoi.
Maman ? tu es toute décoiffée.
Je sais trop cuire les pommes de terre.
En 1991, Chantal Akerman racontait à Jean Dève pourquoi et comment elle avait tourné Jeanne Dielman. En 1975, Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles, trois jours de la vie d'une femme qui effectivement épluche des pommes de terre, panne des escalopes et reçoit de temps en temps des clients. Mathieu Macheret, c'est une déflagration ce film Jeanne Dielman. Chantal Akerman a 25 ans quand elle le tourne et Gus Van Sant, Michael Haneke, Todd Haynes, Tsai Ming-liang, tout le monde se réclame de ce film.
Bien sûr, c'est un monument, c'est un film. Et le terme monument ne va pas parce que c'est trop massif, mais le film est fait de petites choses, d'événements infimes, infras du quotidien, mais surtout, et c'est là que c'est important, de cycles, hein, la répétition, le retour de ces choses qui reviennent, qui sont une forme d'aliénation, hein, une aliénation qui est attachée à la figure de la ménagère, qui est jouée par Delphine Seyrig, et évidemment, l'épreuve de la durée, la pénétration de ce quotidien et de ces répétitions-là, crée un film à la fois très solide, très matériel, extrêmement précis sur ce dont il parle, hein, vie d'une ménagère, mais à la fois presque hallucinatoire aussi. Hein. On est en plein cœur d'un cinéma moderne, c'est-à-dire, on disait narcissique tout à l'heure, c'est un peu absurde, qui part de soi pour aller vers quelque chose qui est à la fois extrêmement quotidien et en même temps une pure vision. C'est un film extrêmement important.
Corinne Rondeau, Clara Terton parlait tout à l'heure de la question de l'espace chez Chantal Akerman. La question du temps joue énormément dans ce film, qui est rythmé comme ça par des plans très longs, et puis des ellipses, et puis des plans très longs à nouveau, avec une musicalité assez étrange et assez forte, dans laquelle se glisse le spectateur presque dans le hors-champ et dans l'ellipse.
Oui, bon, il ne faut pas non plus en faire des caisses. Non, c'est vrai que c'est un film. Enfin, bon, moi, je l'ai pas vu énormément, ce film. Par contre, ce qui m'intéresse sur ce film, dont vous parlez sur ce temps, c'est un film très long. C'est le plus long qu'elle ait fait, je crois.
Oui, plus de 3 heures.
Mais ce qui est intéressant, c'est un film dont le temps est incorporé. Enfin, ce qui va arriver à la fin du film est lié à une question d'heure.
Voilà, un décalage d'une heure.
Voilà. Et c'est ça qui est important, c'est que lorsque vous êtes pris dans une durée et une répétition d'habitude, qui sont faites pour qu'on les voit, c'est-à-dire qu'il y a une étrangeté à l'habitude, et donc justement vous changez le régime de la vision, d'une certaine manière. Ce qui est formidable, c'est que ces durées-là sont faites pour qu'on arrive même à l'oublier. C'est-à-dire qu'on est en train d'oublier ce décalage en même temps que le personnage. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste ça. Après, c'est pas un film sur lequel moi j'aime revenir, parce que tout le monde en parle, tout le monde parle que de ça, avec un fétichisme qui est absolument insupportable. Et à un moment donné, à force de regarder que cette période du cinéma d'Akerman, on en oublie quand même tout ce qui vient après. Et jusqu'au bout. Et moi, j'estime que Jeanne Dielman, ça doit être juste une pierre de plus sur le chemin de l'œuvre de Akerman. Donc il faut arrêter, enfin il faut être un peu dans... Il faut crever la baudruche aussi de Dielman, parce que la question du temps, elle est déjà dans Saute ma ville, elle est déjà dans Hôtel Montoré, elle va être partout.
Clara Terton, il faut crever la baudruche Jeanne Dielman.
J'exagère un peu, évidemment.
Vous connaissez. Comme toujours, Corinne.
Je sais pas, ce que je trouve vraiment passionnant dans ce film, c'est que Chantal, en fait, avait une fascination pour ce rituel-là. Et que il y a quelque chose qui est une déclaration d'amour pour ces gestes-là. Et en même temps, un documentaire, comme disait Mathieu tout à l'heure, enfin, vous disiez pas exactement ça, mais un document, ouais, peut-être, ouais. Sur qu'est-ce que c'est être une ménagère à cette époque-là. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, c'est pas une dénonciation de rien. Après, il y a beaucoup de gens qui en ont mis des choses, qui ont mis dedans des choses particulières, par exemple, comme c'était un grand film féministe ou, et c'était pas ça qui était là au départ. Et effectivement, il y a cette heure qui manque et le décalage d'un mécanisme et qui fait, mais c'est plus un film sur la peur du vide, comme d'ailleurs Chantal le disait tout à l'heure dans l'extrait que vous avez passé, que tout ce qu'on a dit après, qui était un film très féministe et c'est vraiment plutôt un film sur la peur du vide et comment est-ce qu'on peut échapper à cette peur-là grâce à ces rituels. Et d'ailleurs, Chantal elle-même a toujours eu une... Elle avait besoin des rituels, elle aimait les rituels. Moi, je sais qu'au montage, on avait une façon de travailler... Enfin, moi, j'ai une façon de travailler où il y a un rituel assez fort... Il y a des choses, à la fois, même il n'y a pas de règles, mais il y a quand même, rituel ça veut dire des gestes, des temps réglés d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi à n'importe quelle heure, et on respecte le temps qui est nécessaire pour que les choses viennent. Et donc pour ça, il faut créer un rythme de travail. Et Chantal, elle aimait beaucoup ça. Chantal, ce qui est magnifique, c'est toujours ce rapport entre, enfin, le mélange d'une organisation, d'un rituel et d'un chaos. Et c'est ça qui fait les étincelles. Et pour moi, Jeanne Dielman, ça annonce ça. Et ce que je trouve, alors c'est vrai que je suis un petit peu agacée aussi quand on ne montre que Jeanne Dielman, mais en même temps, c'est magnifique.
C'est quand même pas rien.
Ma très chère petite fille, j'ai bien reçu ta lettre et je m'excuse de ne pas avoir répondu le jour même. J'ai aussi reçu ton scénario. C'est très bien écrit, mais tu connais mon goût. Je trouve ça triste et douloureux. Sans doute que tu veux, c'est la tristesse de ces gens qui vivent misérablement. En tout cas, c'est très social. J'espère qu'il sera comme tu le désires, très beau. Il faut réveiller la conscience du monde à tous ces problèmes de ces temps et que la misère est si grande et que vous, les jeunes, voyez mieux. Ma chérie, je t'envoie dans cette lettre $20. Je n'ose pas risquer plus, mais Marilyn en prendra d'autres pour toi. Je donnerai ce que je pourrai, tu sais bien. Figure-toi que papa a rêvé de toi cette nuit. Il a été terriblement bouleversé car tu l'as pris au secours dans son rêve. Et puis, tu as disparu. Il a été terriblement triste toute la journée, le cœur si lourd, je ne savais plus quoi inventer pour lui faire passer ça. Écris-nous vite tes nouvelles. Est-ce que tout va bien pour toi, car il m'a passé son angoisse. Mon amour chéri, si tu savais que nous t'aimons, qu'on va pas parler de toi, comme il est fier de sa fille, tu ne peux l'imaginer. Nous voudrions que tu reviennes bientôt naturellement. Si j'avais des moyens, j'irais te voir. Mais pour cela, il faudrait que je gagne à la loterie. Tu sais comment cela va. On travaille, c'est toujours dur. Papa est trop honnête et c'est toujours lui qui se fait avoir. On a à nouveau un client. Il nous doit 300 000 francs. Il a fait faillite. Alors on a de nouveau perdu d'argent. Tu vois comment sont les affaires. Mais enfin, du moment qu'on a la santé, alors on verra, ça ira. Nous avons une belle collection. J'espère que cette année, la saison sera meilleure. D'ailleurs, papa s'est mis en rapport avec l'assurance de crédit. Alors il sera couvert à 80% sur les faillites éventuelles des clients, car cela ne devenait plus possible. Chaque année avant d'être pareil. Enfin, je ne devrais pas t'attrister avec ces choses-là.
News from Home, Chantal Ackerman, 1977. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le film, on entend la voix de Chantal Ackerman qui lit les lettres reçues de sa mère. Et à l'image, on voit la ville de New York. Vous parliez tout à l'heure, Corinne Rondeau, de cette lettre qui est là, des Sautes ma ville, des lettres. Il y en a sans arrêt dans les films de Chantal Ackerman. Alors, je vous cite à nouveau, hein, souvent d'amour, les lettres communiquent à distance une absence plus qu'un secret. La lettre ackermanienne ne relève d'aucun dénouement. Quel rôle jouent ces lettres dans le cinéma d'Ackerman, Corinne Rondeau?
Effectivement, on entend la lettre sous toutes ses formes, parce que bon, dans Sautes ma ville, on ne sait pas le contenu. Il y a beaucoup d'autres films Hôtel Montreux ou d'Est, on ne sait pas ce qu'il y a sur les lettres. Mais là, on en entend d'autres dans d'autres films. On les voit s'écrire sans qu'on sache ce qu'il y a dedans, notamment Je tue Hélène, par exemple. Non, elle est sous toutes ses formes. On en joue aussi avec l'aide d'une cinéaste. Donc la lettre, elle est partout. Mais ce qui est évident, c'est que si la lettre n'est pas faite vraiment pour être lue, c'est qu'elle est faite pour être vue. Enfin, en tout cas, regardée. Prendre le temps de regarder qu'il y a une absence. Je veux dire, elle est au milieu, comme le nez au milieu de la figure. Donc évidemment, c'est une manière aussi de travailler cette lettre. Et quand la lettre n'est pas à lire, mais qu'elle est en train de vous dire « Regardez-la », elle est en train de s'adresser à vous. Et c'est là, je dirais, c'est même le détail, mais le détail qui prend peut-être beaucoup d'espace dans la réflexion, quand moi je regarde ces films, c'est de dire, voilà, il y a une place qui est faite au spectateur de manière, je dirais, très intime. Je veux dire, une lettre, c'est toujours quelque chose que vous faites en solitaire, en retrait, que vous adressez. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est comme un film qui s'adresserait chaque fois à quelqu'un. Mais évidemment, ces lettres-là, bah, c'est quand vous regardez les gens qui peuvent sourire en train de lire une lettre. Enfin, maintenant, il y a des textos, des choses comme ça. Je préfère toujours qu'il y ait du temps entre. Et le décalage aussi qui est dans le cinéma d'Akerman entre les voix et l'image, parfois, joue aussi de ce rapport d'écart. Puisqu'en fait, quand vous envoyez une lettre, eh bien, la manière de répondre, parfois, ça fait des décalages. C'est-à-dire qu'on reçoit des choses qu'on n'est pas censé attendre, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est assez beau, parce que c'est de la temporalité, c'est une adresse, c'est du temps toujours, et c'est quelque chose qui s'écrit, parce que la dimension aussi de l'écriture est extrêmement importante. Mais la vraie question, c'est pas de savoir où se trouve le secret. Et donc, quand effectivement, on trouve des gens qui peuvent lire des lettres, hein, ça reste quelque chose qui... C'est pas une, oui, c'est pas un secret du tout, mais c'est quelque chose est adressé, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est une très grande force du cinéma d'Akerman, et même d'autres choses d'ailleurs, à partir de ces images et du temps, de poser la question de l'adresse. Un cinéma qui s'adresse ou une œuvre qui s'adresse à l'autre. Moi, j'en connais pas d'autres.
La lecture de lettres d'une mère à sa fille, c'est comme ça que vous avez rencontré Chantal Akerman. Clara Terton, c'était le projet Letters Home de Sylvia Plath. On est en 1984, et un film qu'on a pu voir il y a 2 ans, hein, quand il est sorti enfin après, en même temps que No Home Movie. Comment s'est passée cette rencontre avec Chantal Akerman, d'autant que vous n'êtes pas du tout arrivé par le montage, a priori, sur ce film?
Oui, c'était assez... surprenant, comme toujours avec Chantal. De toute façon, il y avait toujours des surprises depuis le premier jour jusqu'à la fin. En fait, oui, c'est Delphine Séré qui jouait dans une pièce de théâtre dans un petit théâtre à Paris, le théâtre de la Rue Blanche, et qui jouait cette pièce Letters Home avec sa nièce Coralie Séré. Et c'était Antenne 2 à l'époque. Voulait passer un extrait de la pièce et donc voulait que elle soit filmée. Mais Delphine Seyrig ne voulait pas que ce soit la télé qui la filme. La seule personne qu'elle voulait bien qui la filme, c'était Chantal Akerman, justement grâce à Jeanne Dielman, grâce à leur rencontre avec Jeanne Dielman. Du coup, moi, je travaillais à l'époque au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir comme technicienne. Et Delphine Seyrig était présidente du Centre Simone de Beauvoir, donc elle m'a téléphoné un dimanche matin en me disant « il faut absolument que tu accompagnes Chantal Akerman qui va filmer, etc. » Donc voilà, j'ai fait ça, je me souviens vraiment du jour, c'était un dimanche matin. Parce que ça m'a surprise. Et du coup, je suis allée chercher Chantal, le matériel au centre. Enfin, d'abord le matériel, ensuite Chantal. Ensuite, on est parti. Je me souviens même que je lui ai demandé si elle conduisait et qu'elle m'a dit non et heureusement. Et sur le coup, j'ai pas compris. Mais plus tard, j'ai compris pourquoi elle a dit que heureusement qu'elle conduisait pas. Elle aurait peut-être pas toujours regardé dans le rétro, on va dire. Cette façon d'avancer, de pas avoir peur, de pas avoir de règles. Bon, je sais peut-être que c'était pas très, que ça se correspondait pas tout à fait avec la, compatible avec la conduite, ouais. Enfin, je sais pas, c'est... En tout cas, on arrive au théâtre, j'installe le matériel, j'allais faire le point parce que j'étais une technicienne très consciencieuse et donc j'avais bien installé Chantal pour qu'elle puisse cadrer. Et au bout de 2 secondes, elle me dit « vas-y, cadre-toi, je suis mal installée ». Donc du coup, je m'y mets, mais j'ai même pas eu le temps d'avoir le trac parce qu'en fait, voilà, j'étais, je sais pas, c'était comme ça dans le vif de l'action. Et elle m'a dit « je ferai le point moi-même ». J'ai commencé à filmer. Et à chaque fois que j'allais pour me rapprocher de Delphine ou de Coralie, Chantal était en train de me dire de le faire. Donc du coup, il y a eu comme une espèce de... Ouais, comme une osmose directe. Mais de manière extrêmement simple. Et voilà, la pièce a terminé. Chantal est allée voir Delphine sur scène. Et elle lui a dit « c'est qui cette petite là-bas? J'aimerais bien travailler avec elle ». Après, on a regardé ce qu'on a fait. C'était pas très très net. Mais ça a été un début important, une rencontre importante. Mais oui, moi j'aime beaucoup le fait de ne pas l'avoir rencontré autour du montage. Et en fait, 2 ans plus tard, Chantal a décidé de faire un film de cette pièce. Donc elle l'a remis en scène en faisant carrément 2-3 semaines de tournage à la MC 93 à l'époque. Et donc j'ai monté ce film ce film-là qui s'appelle Letters Home.
Il faut que mon cœur se calme. 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 Cette nuit, affolée, il m'a tenue éveillée. Auprès de mon mari, qui s'était endormi, son corps contre le mien, ne se doutant de rien. Et quand le jour venu, il a quitté la chambre, frôlant de ses pieds nus le tapis rouge tendre. Dans un souffle léger, je lui ai murmuré: enferme-moi dans tes bras, ne me quitte pas, ne t'en va pas, attache-moi au lit, je n'aurai pas un cri, je t'en supplie, retiens-moi. Mais je l'ai dit trop bas. Puis la porte.
C'est Madame Schwartz qui chante dans Golden 80s Delphine Seyrig. Ça aurait pu être Aurore Clément, hein, si on en croit le film Les années 80 qui raconte ce qu'aurait pu être ce projet s'il s'était déroulé comme prévu. Qu'est-ce qui se passe au mi-temps des années 80? Ça va beaucoup désarçonner les spectateurs pour qui Chantal Akerman, c'était des plans comme ça, très longs, très carrés, très cadrés, qui devaient durer. C'est un moment où Chantal Akerman va se méfier de son propre formalisme, a envie d'aller vers la comédie, vers peut-être le grand public. Il y aura un divan à New York. D'ailleurs, Chantal Akerman disait toujours, mes films sont pour tout le monde. Je ne fais pas du tout des films réservés à une élite, Clara Terton.
Oui, je pense pas du tout qu'elle s'est dit qu'elle se méfiait de son propre formalisme, parce que je pense pas qu'elle se voyait comme quelqu'un de formaliste. C'est en ça, d'ailleurs, que j'aime raconter la façon dont on s'est rencontrés. Bon, ça me fait plaisir, c'est sûr, mais c'est pas ça le cœur. Ce que je trouve vraiment fort dans cette rencontre-là, c'est à quel point pour elle tout est possible. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait comme école ou qu'est-ce qu'il est capable de faire. Elle fait confiance à ce qui se passe à ce moment-là avec la personne. C'est toujours ça qui l'a guidée. C'est d'être dans ce présent et d'arriver à vivre le présent de manière à ce qu'il y ait des choses qui adviennent. Donc là, elle a eu une envie d'une comédie musicale. On ne sait pas comment. Moi, je ne sais pas comment. On ne sait jamais comment les choses lui arrivaient. Et elle y est allée, mais elle ne s'est pas dit je veux faire une rupture avec ce que je faisais avant. Mais de la même façon, quand on était en montage ensemble, on se disait jamais tiens là on va créer une rupture. C'est comme si on poussait loin et on sentait. C'est toujours par quelque chose qui était organique. Ça se passait de manière organique et tout à coup donc on prenait la décision. Et même le mot décision, il est toujours un petit peu étrange pour moi. J'ai l'impression que c'était plus quelque chose qui s'imposait. Et par rapport à la façon dont les projets de Chantal naissaient, je pense que c'était la même chose. C'est-à-dire que c'était pas prévu d'avance. D'ailleurs, elle a jamais compris pourquoi elle avait cette étiquette parfois d'intellectuelle. De réalisatrice ou de cinéaste intellectuelle, difficile à comprendre ou conceptuelle. Parce que et moi non plus, j'ai jamais compris. Parce que pour moi, son cinéma, il est complètement lié au corps. On le reçoit avec le corps. Et s'il nous bouleverse, c'est bien qu'il ne passe par notre corps. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas ça, qui refusent d'être bouleversés, qui veulent plutôt, quand ils vont au cinéma ou quand ils vont découvrir une forme artistique, vérifier quelque chose ou reconnaître quelque chose d'une réalité. Le cinéma de Chantal Akerman, c'est exactement l'opposé. C'est de nous bouleverser et de nous faire voir différemment. Je suis partie un petit peu loin de la question, mais pourquoi pas.
Mais on y arrive.
Oh, oui, ils ont désinfecté.
Ah oui, je sens.
Ah, c'est, moi aussi, c'est une odeur particulière.
Oui, très particulière.
Oh, ça ne part pas vite. Il n'y a rien à faire, ça reste.
Ne vous inquiétez pas, ça finira par disparaître.
Oui, mais dans la mémoire, ça reste. Ah, heureusement qu'ils sont venus quand même.
Qui ça?
La désinfection. Elle se cache bien, ces petites bestioles.
Ah oui, la désinfection, c'est ça, cette odeur.
Oui. Mais il n'est pas tout à fait neuf.
Il est vide.
Ah, vous pouvez le remplir. Voici la salle de bain. Avec les toilettes séparées. C'est rare en France.
Oui, très.
Avec un grand bain.
Le ballon d'eau chaude fait combien?
Il doit faire au moins 50 litres.
Vous croyez que je vais avoir de l'inspiration ici?
Ah, je ne sais pas. En tout cas, on peut aspirer. Hein, ça peut aider.
Vous êtes si pensif.
Cette odeur, oui. Cette odeur. Exactement comme en Pologne. Vous connaissez la Pologne?
J'en ai entendu parler.
C'est un grand et beau pays. L'été, on y meurt de chaud. L'hiver, on y meurt de froid.
Moi, je sais.
Ah. Vous êtes un enfant de la troisième génération.
Comment vous savez?
Ça se voit. J'ai perdu toute ma famille en Pologne.
Je m'en doutais un peu. Mais c'est toujours mieux de savoir.
Ah, cette odeur. C'est cette odeur ici, ça. Ça m'est remonté tout à coup. Heureusement, j'ai pas eu d'enfant.
Pourquoi heureusement?
On dit qu'ils souffrent beaucoup de ce qui est arrivé là-bas, à leurs parents. Ceux de la troisième aussi, d'ailleurs.
Moi, je souffre pas. Je porte juste des lunettes. C'est embêtant.
Mathieu Macherey l'annonçait tout à l'heure. Demain, on déménage. Jean-Pierre Marielle fait visiter un appartement à Sylvie Testu. Formidable double de Chantal Akerman. Sylvie Testu et des questions qui reviennent donc de film en film. Ici, au détour d'une conversation totalement anodine. Vous parlez vous-même, Conrando, de la question du ressassement dans votre livre, citant une parole de Chantal Akerman dans Le frigidaire est vide, on peut le remplir. Il n'y a rien à ressasser, disait mon père, il n'y a rien à dire, disait ma mère, et c'est à ce rien que je travaille.
Oui, mais enfin, je cite Chantal Akerman, mais enfin, bon, j'en fais pas des tonnes. De toute façon, le ressassement, c'est une chose simple. C'est une manière de se dire qu'on ne sait pas qui on est. Donc, il faut bien, chaque fois, se reposer des questions. Donc, ce qui est important est... Enfin, il me semble, dans Demain on déménage, mais comme d'autres choses, quoi. C'est justement, peut-être que ça permet aussi de revenir à toutes ces formes, tous ces genres qu'elle a traversés, la comédie musicale, le burlesque, même s'il n'y en a qu'un, mais la comédie, mais aussi le drame, enfin, bon, voilà. C'est une possibilité, si vous voulez, de modifier tout le temps quelque chose de ce que je ne sais pas. Quand Claire tout à l'heure disait, voilà, elle ne savait pas où elle allait. Enfin, il y a un moment où elle le dit très clairement dans les années 90, ne pas savoir ce que je vais trouver. Mais c'est aussi une manière de se chercher à l'intérieur de sa propre œuvre, qui est une manière de traverser quelque chose qui n'est pas connu de soi. Quand Claire, par exemple, dit, voilà, les gens vont peut-être au cinéma pour retrouver, reconnaître. C'est-à-dire, ils passent de la question du fauteuil, être bien assis, à la signification. Tout le travail de toute l'œuvre de Chantal Akerman, c'est une œuvre sur le sens. Et c'est la raison pour laquelle Claire aussi parlait de la question de la résonance. Et tous ces éléments concrets, ces petits motifs qui se trimballent partout, que vous pouvez mettre en avant, derrière, sur les côtés, mais c'est quelque chose qui fait effectivement permet de reprendre les formes pour les voir autrement. Mais à force de ressasser, si vous voulez, en reprenant le terme de Chantal Akerman, mais aussi de se poser toujours la question, mais je ne sais pas, Mais là, je ne sais pas, quand vous voulez aller au bout de ce que je ne sais pas, ben vous êtes en train tout le temps d'ouvrir votre œuvre, vous êtes tout le temps en train de lui donner d'autres formes dans lesquelles vont résonner tout ce qu'on croit être de la répétition, alors qu'il n'y a pas de répétition. Il n'y a que des moyens cinématographiques, mais aussi artistiques, mais aussi, je pense, littéraires, qui produisent en fait un effet à l'intérieur de l'œuvre elle-même. Et Chantal Akerman est quelqu'un qui s'interroge à l'intérieur de son propre travail. Donc évidemment, l'une des choses qui me paraît assez évidente, c'est qu'on ne peut pas toujours faire la même chose quand on se pose toujours la question de bah, je ne sais pas, est-ce qu'on peut savoir qui on est? Bah, c'est pareil pour Chantal Akerman. Sauf que elle l'œuvre. Elle l'œuvre et elle en fait une œuvre sur à peu près 50 ans. Donc là encore, j'en connais pas d'autres.
Mathieu Machery, il y a effectivement cette façon dans les films de Chantal Akerman, et c'est très frappant dans sa trilogie documentaire d'Est, Sud et de l'autre côté, de nous faire voir une image qui apparaît derrière une image qu'elle est en train de nous montrer. Enfin, par le temps long, que ce soit ces arbres sur lesquels on pendait des Noirs dans le sud des États-Unis, que ce soit quand elle filme à l'Est, juste après la chute du mur de Berlin, ces longues files d'attente, et derrière lesquelles d'autres images apparaissent aux spectateurs.
Oui, bien sûr. C'est vrai, ces trois films, d'ailleurs, c'est une espèce de trilogie informelle, documentaire, et dont De l'autre côté aussi, on retrouve la même chose. C'est un film De l'autre côté qui est passionnant, d'ailleurs, qui est sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et où Chantal Akerman filme des étendues désertiques, où apparaissent ou transparaissent les fantômes de l'immigration. Parce que c'est ça, les gens qui essayent de passer de l'autre côté, justement. Et cette présence-là, ce qui habite l'image, mais qu'on ne voit pas directement et qui se signale par tout un ensemble de synesthésie, est évidemment un feuilleté de signification, de vision, etc. Comme on a pu l'entendre dans l'extrait de Demain, on déménage, derrière la fantaisie, il y a la conscience des camps, une certaine histoire européenne. Comme dans Les rendez-vous d'Anna, les trains qui circulent à travers l'Europe rappellent aussi quelque chose de ça. Et l'image a toujours une forme de profondeur, hein, un double fond comme ça, où on peut aller puiser.
Merci Corinne Rondeau, merci Claire Atherton. On se quitte sur cette chanson juive interprétée au violoncelle par votre sœur, Sonia Vider-Atherton, au violoncelle, et puis par Daria Vora au piano, un air traditionnel qu'on entendait dans le film de Chantal Akerman, Histoire d'Amérique, en 1989. Je rappelle que l'essai de Corinne Rondeau, Chantal Akerman, Passer la nuit, est publié aux éditions de L'Éclat, comme votre précédent essai, tout aussi recommandable, Corinne. Sur Suzanne Sontag, on se quitte, mais c'est une fausse fin, comme souvent chez Chantal Akerman, d'abord parce qu'on pourra vous retrouver toutes les deux le mardi 23 janvier au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme à Paris pour une rencontre animée par notre consoeur en dispute, Anna Sigalevitch, une rencontre suivie par la projection de l'autoportrait Chantal Akerman par Chantal Akerman, pas narcissique du tout, dans la collection Cinéaste de notre temps. Et puis une semaine plus tard commencera la Cinémathèque française, une rétrospective qui durera jusqu'au 5 mars 2018, l'occasion notamment de découvrir sur grand écran bon nombre de raretés. Et puis, plan large, ce n'est pas complètement fini. Il nous faut encore, guidé par Mathieu Machery, aller sur les plages iraniennes du golfe Persique et se battre pour quelques bouteilles de verre.
Osta taşı şıta vardı.
Allah kira fikte. Ben tut hadi gel ben ona. Ben tut çıkalı sen konu.
Şuru yani.
Sorti une première fois en 1985, Le Coureur d'Amir Naderi est ressorti mercredi sur les écrans français dans une version restaurée avec même de nouveaux sous-titres. Il avait été tourné en pleine guerre Iran-Irak, produit comme les premiers films de Kiarostami par le Centre pour le développement intellectuel des enfants et des adolescents. C'est un film historique à plusieurs titres. D'abord parce que, avec la montgolfière d'or qu'il avait reçue cette année-là au Festival des Trois Continents à Nantes, il est le premier film iranien, d'après la révolution de 1979, à recevoir une récompense dans un festival international. Et de ce fait, il ouvre la voie à tous les cinéastes iraniens qu'on découvrira en festival et aussi dans les salles dans les années 80 et 90. Et puis, parce que en étant le premier réalisateur iranien à donner le rôle principal à un enfant, une manière très efficace, on le sait, d'éviter la censure, Amir Naderi invente un genre très inspiré par le néo-réalisme italien, genre où s'illustreront plus tard, évidemment, Abbas Kiarostami, Bahram Beyzaï ou encore Jafar Panahi avec Le Ballon Blanc. Mathieu Macheret, invention d'un genre ?
Si on veut, mais c'est un genre qui remonte, enfin qui a des racines profondes, hein, vous l'avez dit, le néo-réalisme. Et moi, c'est un film que je connaissais pas, que j'ai découvert, et je crois qu'on peut lâcher le gros mot de chef-d'œuvre sans aucun problème. C'est un film d'une modernité sidérante. Alors on pense évidemment à Almania Nezero, de Rossellini, au petit fugitif peut-être même, parce que c'est un film d'une grande modernité, voilà, qui passe par le regard et la mobilité d'un enfant. Ici, c'est le petit Amiro, un enfant des rues, voilà, vous l'avez dit, dans le golfe persique. Et si l'enfant est le personnage moderne par excellence, on peut se demander pourquoi. C'est parce qu'il impose à la fiction une hauteur de vue inhabituelle, décentrée, détachée des intérêts ordinaires des adultes. L'enfant n'a pas la même taille que l'adulte, ne fait pas la même expérience du monde, il circule entre les grands et voit beaucoup mieux que la société qu'ils construisent, le monde qu'ils habitent. L'enfant, c'est surtout, et on le voit dans le film, un voyant. Il voit entre les choses, il observe. Et c'est pas pour rien que le film s'ouvre sur le regard de l'enfant, hein, qui est en soi bouleversant. Jeune héros qui, pendant qu'il cherche des objets à revendre, dans une décharge, voit, il prélève par observation des fragments du monde autour de lui. Des scènes comme ça d'une dureté, d'une grande violence. Alors le jeune Amiro, il vaque à ses occupations dans un monde assez indifférent et il file à 100 à l'heure, il multiplie les petits boulots de rien du tout, il ramasse les bouteilles vides, il vend de l'eau aux passants, il cire les chaussures des étrangers et à chaque fois, le maigre butin qu'il ramasse est toujours disputé par les autres, hein, il doit toujours se conquérir. Alors il court tout le temps, après la petite monnaie, après les mauvais payeurs, après les denrées, après le temps peut-être, et quand il court pas, il contemple les bateaux du port, il collectionne les magazines avec des photos d'avions, c'est-à-dire encore de la mobilité, encore des véhicules, hein, qui représentent le lointain, l'ailleurs. Car Amiro, c'est ça, c'est cette mobilité. Et son jeu favori avec les autres gamins des rues, c'est étonnant, mais c'est assez frappant, c'est la course. Hein, à la moindre occasion, il court, de préférence derrière un train, pour être le premier.
تو پس غلی میخوای اول بشی مگه ما مردیم
حتی کچلوی که میبه حالا نبینیم
مگه کچل نیستم سرمان اصلا که رو
تو از صبح تر اینجا سر سر میکنی
همه همه پوش میدی
حالا میبینیم
بشین بابا تا اول میشه اول بشی بابا بینید
کام درد میکنم
اگر نمیتونی ندو
حالا مسابقه است که داشتی نستا میدو با
میرو خودت
بچه 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 ها بدن داره میاد آمد زود باش بچه
Amiro qui court avec ses copains jusqu'à en perdre haleine. On voit dans la scène à quel point il est primordial pour lui comme pour les autres, hein, on l'a dit, d'arriver le premier, de se démarquer. Parce que la survie, c'est l'enjeu principal, c'est une question de mouvement. Bouger pour ne pas mourir, remuer pour ne pas disparaître, pour simplement exister, être là, éprouver quelque chose. Et l'on voit bien que l'enfance, c'est vraiment cet âge où tout est jeu, y compris le travail, hein, qui n'est qu'une façon de jouer sa vie parmi d'autres. Mais
c'est aussi un âge où il n'y a rien de plus sérieux que le jeu. On y croit dur comme fer au jeu. Hein, c'est l'importance terrible de ça. Une victoire est capitale. Et parfois, il n'y a rien de plus cruel aussi que le jeu, avec ses tricheries, avec ses injustices qui frappent tous les gosses des rues. Et quand on voit ces petites bandes virevoltantes et livrées à elles-mêmes que forment les gamins, c'est difficile de ne pas penser évidemment au contexte du film. Hein. On l'a dit, 1985, c'est la guerre Iran-Irak qui est contemporaine au tournage du film. Hein. Et c'est difficile de ne pas imaginer que c'est à cause de cette guerre que tous les gamins sont rendus orphelins. Le film n'en dira rien, mais on le devine assez bien. Alors Amir Naderi, il filme tout ça avec une distance souveraine, merveilleuse, qui place toujours l'enfant au centre d'un système mouvant, circulation urbaine, aller et venue des cargos de marchandises, des personnes, trafic d'objets, négoces, tractations, etc. Toute une activité, tout un trafic. Le cinéaste laisse surtout entrer la lumière dans ses plans et on est ébloui par le coureur. Film illuminé, miroitant, croulant sous un soleil de plomb. Hein, voilà, tout est pailleté, c'est assez incroyable. Il y a un final dont on ne dira rien, mais qui est hallucinant, quasi cosmique. Hein, c'est une scène magnifique. Il y a une autre scène magnifique, celle où Amiro doit récupérer un pain de glace et tente de le ramener jusqu'à chez lui, jusqu'à son abri, en le protégeant de tous ceux qui essayent de lui voler. Alors il court, il traverse des terrains vagues, des chantiers, des autoroutes, et le morceau de glace fond à vue d'œil. Et ce à quoi on assiste là, c'est rien moins qu'une image de la condition humaine. Hein, quelqu'un qui court derrière un butin, qui se consume, hein, qui fond, qui s'écoule comme une poignée de sable entre les mains, et on peut jamais l'attraper, hein, on peut jamais le tenir. Du pain de glace, il reste bientôt plus grand chose, sinon un effort dilapidé, une course en pure perte, et le cinéma n'est jamais aussi fort que quand il saisit comme ça l'image d'un temps qui fuit, d'un temps qui s'écoule.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
Merci Mathieu Macheret. Le coureur d'Amir Naderi est ressorti en salle depuis mercredi. Comme aussi, j'ai même rencontré des tziganes heureux d'Alexander Petrovitch une semaine après Rêve en rose de Dushan Anak. Deux très beaux films sur le monde tzigane qu'on vous recommande chaudement, n'est-ce pas Mathieu Macheret? Vous avez écrit sur ces films. On vous signale encore le festival Un état du monde au Forum des images à Paris où vous pourrez voir notamment jusqu'au 26 novembre de nombreux films contemporains libanais, ceux de Daniel Arbid, Ziad Doueri, Jocelyne Saab, Johanna Adi Thomas et Khalil Jorej. Et puis à partir de mardi, il y a une rétrospective Daniel Darieux à la Cinémathèque de Toulouse. Daniel Darieux à qui nous consacrerons un plan large le 9 décembre. Plan large qui est fini pour aujourd'hui à la prise de son Pierrick Monsigny. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, nous irons au festival Entrevue à Belfort. Nous y rencontrerons un grand et très discret producteur, Saïd Ben Saïd, celui qui produit aussi bien Philippe Garrel que Paul Verhoeven, et nous nous intéresserons à leur présence à l'œuvre télévisuelle de deux grands cinéastes, Catherine Breillat et Benoît Jacquot, dans le cadre d'une histoire secrète du cinéma à la télévision française que vous programmez, Mathieu Macheret, et au sein de laquelle on pourra notamment voir Aujourd'hui, dis-moi et Le déménagement de films de Chantal Akerman.